Bonjour et bienvenue sur le podcast Olépat. Aujourd'hui, j'accueille Laura Camille avec qui nous parlons de maltraitance banalisée dans le monde de l'équitation. Coucou Laura, tu vas bien?
Salut Margot, ça va? Merci et toi?
Ça va, je suis très contente de t'accueillir pour la deuxième fois aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites et également présenter tes animaux?
On me connaît sous le nom de Laura Camille Moulin ou sous le nom de mon association Equitime Performance. J'ai été cavalière pendant 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai mon association Equitime Performance qui, pendant 5-6 ans, a replacé des chevaux qui étaient utilisés en laboratoire. Et aujourd'hui, j'ai recentré l'association sur la compréhension du comportement du cheval et l'éducation en renforcement positif. Et en parallèle, je suis à mon compte en tant que pareuse et accompagnatrice optique. Au niveau de mes animaux, je vais parler que des chevaux. Il y a 9 chevaux sur l'association, donc sont tous quasiment des trotteurs entre 11 et 16 ans et les deux autres, du coup, qui ont 10 et 16 ans, qui sont... Donc les trotteurs issus de laboratoire, un cheval issu d'un sauvetage et ma jument personnelle que j'avais achetée il y a 10 ans pour me faire plaisir.
Ok, trop bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de maltraitance banalisée, comme je l'ai dit dans l'intro. Comment est-ce que tu pourrais définir ce terme?
Pour moi, la maltraitance banalisée, c'est vraiment, ça englobe tous les mauvais traitements qu'on inflige à n'importe quel être vivant, que ce soit par souvent méconnaissance, manque de formation, manque d'information, mais aussi par habitude, par tradition et par manque du coup de remise en question et de mise en perspective de ce qu'on sait, ce qu'on a acquis et ce qu'on nous a toujours appris.
Ok. Et est-ce que tu as des exemples de maltraitance banalisée dans le monde de l'équitation, donc là plus particulièrement dans les clubs par exemple?
Ce qu'on peut retrouver comme maltraitance banalisée, c'est les chevaux qui n'ont pas leurs besoins fondamentaux qui sont respectés. Donc des chevaux qui vont pas ou très peu dehors, qui n'ont pas de relations sociales avec d'autres chevaux, qui n'ont pas de fibres en continu. Donc on sait qu'un cheval, ça mange des fibres entre 16 et 18 heures par jour. Qui ne sont pas libres de leur mouvement la majorité du temps, qui vont être, quand ils sortent, soit sur des paddocks en sable ou des paddocks en terre, avec pas beaucoup d'espace et pas de copains pour au moins passer le temps, quoi.
Ok. Et dans les championnats, enfin dans tout ce qui est un peu compétition, est-ce qu'il y a d'autres exemples de maltraitance banalisée?
Tout ce qui va être l'usage de la violence qui choque de moins en moins, c'est vraiment une sensation que c'est rentré dans les mœurs au point que on va vraiment souligner quand une personne ne va pas violenter son cheval s'il s'arrête ou s'il ne répond pas aux demandes. Donc vraiment le fait qu'on ait besoin de mettre en lumière ces personnes-là, ça montre que c'est tellement ancré. Qu'un cheval qui s'arrête, on lui met un coup de cravache, on les plante les éperons dans le bide, que ça devient exceptionnel quelqu'un qui ne le fait pas, quoi.
Ah ouais, j'avais jamais entendu ça, mais à ce point-là, quand même, ça, oui, ça devient un peu problématique.
C'est vrai que souvent, des fois, on peut entendre des gens en bord de piste. Moi, je sais que je l'ai beaucoup entendu, par exemple, un cheval qui s'arrête et qu'on n'engueule pas. D'entendre les gens au bord de piste dire oh là là, mais enfin moi j'aurais mis un bon coup sur le cul, ou alors avec un bon coup sur le cul ça va passer. Moi, quand j'étais gamine, je faisais du concours pour m'amuser, genre en club 4 avec ma première jument, et on comprenait pas que quand je sorte de piste j'étais éliminée, mais j'étais toujours avec un grand sourire alors que j'étais éliminée à chaque concours. Mais je leur disais, ouais, mais la dernière fois j'étais éliminée au 3, là on était éliminée au 4, et moi j'étais juste... Moi, je m'amusais avec mon cheval, je m'en ai rien à faire. Mais Mais c'est vrai qu'avec le recul, en fait, pour eux, c'est pas normal. Enfin, pour certaines personnes, c'est pas normal de quand même féliciter son cheval et caresser son cheval alors que le parcours n'a pas été terminé ou alors parce qu'on n'a pas fait sans faute.
Ouais, mais je pense que en fait les gens ils oublient que c'est aussi, enfin bien sûr c'est de la compétition, mais ils oublient aussi qu'il y a un animal et que avant tout c'est aussi pour s'amuser et aussi être avec l'animal. L'animal c'est pas un objet et je pense que beaucoup l'oublient et pensent d'abord à la compétition pardon et ensuite au cheval, ce qui devrait être normalement l'inverse quoi.
Ben, c'est ça, et puis on s'en rend compte quand moi je sais que ça a plutôt été ça ma mentalité de me dire les chevaux que j'ai, je ne fixe pas forcément d'objectif. Quand j'ai acheté à Tina, elle était rétive à l'obstacle et je ne me suis pas dit j'achète cette jument pour aller faire telles épreuves. On a fait les épreuves qu'on a fait parce que on a réussi avec le travail, mais elle ne l'aurait pas fait quand elle était rétive à l'obstacle. Ben, on a fait du dressage. Apprendre que de la balade. Je suis vraiment moi dans cette optique-là de je fais si mon cheval est capable de le faire, je le faisais, mais j'ai là les trois quarts de mes chevaux, ils sont incapables de d'aller sauter des obstacles, faire un parcours, et je les ai gardés quand même parce qu'il y avait quand même cet affect-là, quoi.
Ouais, mais je pense que, enfin, moi j'étais dans un club avant et en fait, enfin maintenant je monte plus du tout, mais j'ai remarqué qu'en fait les gens, ils étaient vraiment là pour les compétences du cheval et pas pour le comportement du cheval, dans le sens où par exemple, moi je détestais le saut d'obstacle, mais quand on faisait du saut d'obstacle, les gens, ils aimaient le cheval parce que il était bon en saut. Et pas parce qu'il était gentil, etc. Et en vrai, je trouve ça super dommage. Enfin, je peux comprendre qu'on aime monter un cheval parce que, voilà, il est assez sympathique à monter, j'ai envie de dire. Mais jusqu'à dire, je préfère ce cheval parce qu'il est plus fort. Alors que, enfin, moi, je comprends pas trop. Après, on n'a pas la même mentalité sur certaines choses avec des personnes. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'étais un peu, enfin, j'étais un peu, pas sous le choc, mais étonnée d'entendre ça, quoi, alors qu'à la base, c'est quand même juste pouvoir échanger avec un cheval, quoi, entre guillemets.
C'est ça, et c'est là où je me dis que des fois j'ai l'impression que certaines personnes, et moi y compris, on se perd à un moment donné, et déjà parce qu'il y a l'effet de groupe aussi quand on est jeune et tout, mais on se perd, et des fois, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est un moment où tu te poses et tu te dis, mais en fait, moi si à la base j'ai voulu commencer à faire de l'équitation quand j'étais gamine, c'était pas pour ça en fait, c'est pas ça qui m'intéressait chez le cheval. Et du coup ça fait du mal à l'ego et du mal à son être aussi de se dire merde en fait on se remet en question, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Je me suis vraiment perdue dans ce que je voulais faire à la base, et j'entends que c'est pas facile et que quand on est dans un système c'est difficile d'en sortir, surtout quand on a tous nos copains et tout. Le nombre de personnes moi, qui m'ont déjà dit oui ce club n'est pas bien traitant, mais il y a quand même tous mes copains et puis il y a les chevaux que j'aime bien, du coup j'arrive pas trop à partir, et je trouve ça dommage parce que moi quand je suis partie de mon premier club parce que je voulais changer et tout ça, tant pis, j'ai laissé mon cheval préféré, j'ai laissé mes copines, mais en fait moi je voulais faire autre chose, et faut être capable, et pourtant le club n'était pas du tout maltraitant. Mais il faut être capable aussi de dire qu'est-ce qui est bon pour soi, et se dire ne pas se dire que c'est toi qui vas sauver le cheval en restant là-bas. Parce que que tu y restes ou que tu y restes pas, le cheval il fera la rame 4 heures par jour de la même façon. Et en fait, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, et dans n'importe quel domaine, que c'est le client qui a entre guillemets le contrôle. De te dire, si tu boycottes, tu ne donnes plus de l'argent, ils vont être obligés de s'adapter. Si tu décides de boycotter, si un jour tous les cavaliers décident de boycotter les centres équestres qui font faire plus de 2 cours à la suite aux chevaux, ils seront obligés d'arrêter de faire ça. Et je comprends que c'est compliqué et c'est complètement irréalisable. Mais si tu dis, eh ben, je boycotte, enfin, tout le monde boycotte certaines choses, par exemple, tout le monde boycotte les centres équestres où il y a des gogs de manière systématique, eh ben, ils vont être obligés d'arrêter. Mais c'est, enfin, ça, c'est un truc qui est compliqué et je pense impossible à mettre en place. Parce qu'il y en a plein en fait qui ont pas qui s'en foutent en fait que le cheval il ait un gogue ou pas.
Ouais, je pense qu'il y a encore plein de... Enfin, les mentalités, elles doivent changer encore sur ça. Du coup, on va un peu parler de ça. Est-ce que toi, t'as, par exemple, des comptes Instagram? Enfin, hier, du coup, on en a parlé comme on avait fait le premier enregistrement. Est-ce qu'il y a des comptes Instagram ou des livres, je sais pas quoi, qui t'ont fait changer un peu de d'avis sur certaines choses qui t'ont un peu aidé à te remettre en question?
Bah, du coup, moi, j'ai commencé à évoluer dans ma pratique il y a fort, fort longtemps, il y a 10-12 ans déjà, où j'ai pas beaucoup utilisé d'entraînement, j'ai un peu utilisé de reine allemande et noseband et muserolles croisées. Et en fait, c'est en découvrant Philippe Carle à la base où je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, mais en fait, le monsieur, il dit des choses qui ne sont pas stupides. Du coup, je me suis rapprochée de ça et c'est ça qui m'a permis, dans un premier temps, d'avoir cette première prise de conscience. J'ai découvert aussi Eugénie Cottereau, du coup, ergonomie équestre, qui, du coup, il y a 10-12 ans, avait son blog Saddle Fitting, où j'ai découvert, du coup, ben, que les amortisseurs, ce n'était pas spécialement nécessaire et quels amortisseurs étaient vraiment mauvais pour les chevaux, que une selle, ben, fallait l'adapter, que le matériel fallait l'adapter au cheval et au cavalier. Donc, en découvrant du coup Eugénie, du coup, il y a aussi ça qui où j'ai ouvert les yeux là-dessus et c'était en 2011 ou 2012, je crois. Après. Dans les professionnels, là je vais parler surtout de professionnels, il y a aussi Laetitia Ruzen, Ergo Equine, qui est du coup beatfitteuse et justement qui est en train de faire un comment dire, on va dire un guide, un gros livre, un guide de la briderie pour aider du coup les cavaliers à pouvoir un peu s'orienter sans avoir forcément à faire venir un beatfitter parce que c'est compliqué à trouver. Et plus récemment, donc ces dernières années, du coup, j'ai découvert Équimétrique, Simone Ravenel, qui est suisse, il me semble, et qui parle du coup beaucoup de mesures de pression de selle, d'équilibre des chevaux, qu'est-ce qui fait qu'un cheval se fatigue moins à porter le cavalier, parce qu'on se rappelle que l'humain n'est pas fait pour monter sur un cheval et le cheval n'est pas fait pour avoir un cavalier sur le dos. Donc c'est de notre responsabilité de tout faire pour que ça soit le moins dommageable possible. Donc qui est sur Instagram et sur Facebook, parce qu'on est des vieilles personnes, on est encore sur Facebook. Il y a Millie Pat qui est ostéo. Qui fait beaucoup de contenu sur YouTube et Instagram et vraiment qui est super intéressante, qui permet de comprendre beaucoup de choses, même quand on est déjà avancé, il y a toujours des petits détails qui nous aident à comprendre certaines choses. Il y a Maude de Reactive Equine, qui est masseuse, qui a un blog et qui donne beaucoup d'informations qui sont très documentées. Sur divers sujets autour du cheval, du bien-être du cheval, que ce soit là, on est en été, donc on va parler de la douche, les croyances concernant la douche, le couteau de chaleur, tout ça, les protections, les, comment dire, les conséquences de mettre des guêtres ou de mettre des bandes sur les membres des chevaux. Et en dernière professionnelle, je vais parler de Léa Lansade. Qui est éthologue. Elle a du contenu du coup sur Instagram et Facebook, mais aussi sur le site de l'IFCE. Donc qui parle des études qu'elle réalise pour réussir à mieux comprendre les chevaux, mieux comprendre comment ils perçoivent le monde des humains et comment, comment ouais, mieux les comprendre et mieux vivre avec eux.
D'accord. Du coup, merci déjà pour ces recommandations. Je me permets aussi d'en rajouter, bah, comme hier. Du coup, par rapport à l'équitation, je pense que le compte Cavalcrella, enfin, elle est surtout sur YouTube, même si maintenant il me semble qu'elle est plus trop active. Elle fait des petits sketchs et bah, c'est, il me semble, une des premières qui m'a aidée à un peu changer mes idées un peu préconçues, enfin, et me renseigner plus sur le cheval, et c'est vraiment grâce à elle que j'ai aussi beaucoup appris, et elle est assez drôle, donc je pense que apprendre par l'humour, c'est quand même assez cool, surtout au début. Ensuite, il y a Équitation Positive, donc Juliette, pareil, c'est un peu dans le même style. Par contre, elle fait pas trop de vidéos YouTube, elle en fait très très peu, et c'est pas trop forcément l'humour. Et il y a aussi Prune, Bad Boy Lezoz, qui pareil était aussi comme Juliette sur le podcast. Et elle, par contre, elle partage vraiment son histoire avec son cheval Renzo, enfin, avec qui elle a eu beaucoup de difficultés au début. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce que bah, elle montre que bah, rien n'est perdu, quoi, même si au début ça lui paraissait impossible d'avoir une belle relation avec son cheval. Bah, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Elle a une relation quand même assez belle, je pense. Avec lui, et ouais, elle a partagé aussi plein de changements qu'elle a fait pour que son chat y aille mieux, et voilà, plein aussi, on va parler aussi un peu des morts, des fers, etc. plus tard, donc bah, elle a aussi fait beaucoup enfin, des transitions morts, etc. après. Et le dernier compte que je conseille, c'est vraiment pas que sur les chevaux pour le coup, c'est vraiment un peu de tout, c'est Animals Interest, et elle fait des vidéos sur Instagram. Et elle sensibilise un peu tout le monde. Donc voilà, c'est ma petite recommandation. Et du coup, j'avais deux questions à te poser, Laura, sur ce que tu viens de dire. D'ailleurs, tu as dit que les amortisseurs, c'était pas forcément bon. Est-ce que tu peux un peu plus développer? Parce que pour le coup, je savais pas du tout. Enfin, ça dépend des amortisseurs, quoi. Mais du coup, est-ce que tu peux un peu plus développer sur ça déjà?
Du coup, alors le mieux, ça serait d'aller voir le blog de Jenny parce que autant vous dire que entre ce que j'ai retenu depuis, mais c'est que par exemple, enfin, c'est au niveau des matières en fait, il y a certaines matières, genre les amortisseurs en gel, ben, qui me semble-t-il, enfin, ils amortissent rien et qui s'écrasent sous le poids de la selle. Et le mieux qui me à l'époque, c'était plutôt les amortisseurs en mouton véritable avec une gouttière. Et certaines matières, après maintenant, tu sais, moi, enfin, je m'étais plus trop mis le nez dedans parce que je suis. Parce que mes chevaux, en fait, je les monte sans amortisseur, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est que il y a certains chevaux, enfin, qui peuvent en avoir besoin parce qu'ils ont le dos qui est un peu sensible, parce que c'est des chevaux qui ont une fonte musculaire, tout ça. Du coup, de se dire que c'est pas. Enfin, il y a pas, il y a certaines matières du coup et certaines coupes d'amortisseurs du coup qui sont vraiment pas bénéfiques pour le cheval, mais tu as certains amortisseurs qui peuvent être utiles en fonction du cheval et c'est là où en fait le saddle fitter il est intéressant, c'est qu'il est capable de définir si le cheval en a besoin ou pas. Certains vivront très bien sans et c'est pas une question de bah la selle est trop large, on met un amortisseur et basta quoi. Ou bah, certains, la selle est trop étroite, bon, bah, je mets un amortisseur pour compenser parce que ça lui fait mal. Bah, non, du coup, c'est encore plus serré. Bref. Mais franchement, l'idéal, c'est d'aller voir directement le blog de Jenny parce que je pense que je vais potentiellement dire n'importe quoi parce que j'arrive pas à garder toutes les informations.
Ok, pas de
Mais
souci.
ouais, c'est qu'il y a certains chevaux qui vont en avoir besoin et certains, ils vont en avoir besoin 6 mois, après, ils n'en auront plus besoin, après, ils en auront besoin. Enfin, c'est vraiment, bah, on reste quand même sur du vivant. Donc, c'est au même titre que c'est pas parce que la selle, tu l'as pris quand il avait 4 ans que maintenant qu'il a 10 ans, bah, elle lui va encore. Et même, enfin, c'est pour ça que c'est hyper compliqué d'avoir du matériel adapté parce que en 6 mois de temps, en fait, la selle qui allait peut ne plus du tout aller, quoi.
Ok, du coup, bah, j'allais te demander par rapport aux amortisseurs, comment t'as su? Du coup, le saddle fitter, c'est un spécialiste ou parce que j'ai déjà entendu parler de ça, mais je sais pas exactement ce que c'est.
En fait, le saddle fitter, alors il peut être que saddle fitter, ou des fois il y a des ostéos qui se sont formés en saddle fitting. C'est en fait une personne qui va regarder, donc prendre des mesures de ton cheval. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé avec celles qui étaient venues, enfin celles qui sont venues chez moi. C'est prendre les mesures du cheval à froid. Du coup, ils prennent du coup la courbure du dos, la longueur du dos, combien il y a entre telle zone et telle zone, la largeur au niveau du garrot, puis sur plusieurs zones du dos où repose la selle. Après, on regarde notre selle qu'on a habituellement, si on en a une, à l'arrêt, du coup en statique, sanglée, tout ça, on voit un peu déjà si en statique il y a des trucs qui vont pas, parce que des fois, rien qu'en statique, on voit des trucs qui vont pas. Après, on regarde les autres selles qui, selon le questionnaire qu'on a rempli, ben, peuvent potentiellement aller au cheval, parce que entre un fjord qui est un peu rond, et un pur sang qui a le dos, qui a un aileron de requin et le dos en toit, on est sûr qu'il n'y aura pas les mêmes selles. Donc, le saddle fitter, c'est déjà en fonction du cheval que tu as, quel type de selle il va t'emmener. Et après, on regarde le cheval en mouvement à la longe. Du coup, on le voit nu d'abord pour qu'il s'échauffe et pour voir comment un peu il fonctionne. Après, on met sa selle habituelle sanglée. Après, le cavalier monte dessus, il fait un petit tour. Ok, on regarde. En fonction de ce que fait le cheval, moi en général c'était un peu pas un peu trop, mais on peut essayer aussi à l'obstacle, enfin en fonction des activités qu'on fait et qu'on va faire avec cette selle-là. Et après, en fonction, soit ben, la selle par exemple est juste un peu déséquilibrée, du coup le saddle fitter eh ben, il va venir faire quelques réglages, soit ben, la selle ça va pas du tout, autant au cavalier qu'au cheval, on change de selle, on teste, des fois on change de sangle, on change de tapis. On voit, on met une cale, deux cales, trois cales, une cale devant, une cale derrière. Enfin, on teste un peu tout. Et après, en général, moi, j'ai jamais testé plus de trois selles parce qu'en fait, ça sert à rien de faire tester 10 selles. En fait, si le saddle sitter, il est bien formé, il sait à peu près quelles selles vont aller. Donc, il n'a pas besoin d'emmener 8 000 selles. Et du coup, après, ben, il y a comment on sent le cheval dessous, comment la personne voit le cheval de l'extérieur et comment nous, en tant qu'humains, on se sent sur la selle. Parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai fait venir le saddle fitter et qu'on a juste rééquilibré la selle, bah, qu'en fait, trotter enlevé, c'est super facile. Et rester au trot assis, passer des transitions, ben, c'est super facile quand on a une selle qui nous va et qui va au cheval et qui est équilibrée. Et du coup, enfin, c'est hyper intéressant parce que y a certains chevaux. J'ai déjà vu un cheval en clientèle où bah, la selle, juste la selle a été posée sur le dos, même pas sanglée, déjà ça allait pas. Mais quand j'ai vu le cheval avec le cavalier sur le dos se déplacer, un cheval de presque 1,80 m qui avait des foulées de poney au pas, et du coup la personne me dit, ben, je le trouve un peu limité à l'obstacle alors qu'il pourrait faire plus que ce qu'on fait actuellement, mais c'est ce que je lui avais dit. Du coup, normalement, elle avait fait venir un saddle fitter. Et je lui avais dit, mais déjà, s'il arrive à sauter 1 mètre, 1,5 m en étant coincé comme ça, mais le jour où il aura une selle qui lui permet de s'exprimer, je lui ai dit, mais tu vas décoller parce que la gentillesse du cheval de sauter alors qu'il est tout coincé, je lui ai dit, mais une fois qu'il aura du matériel qui lui permettra de vraiment s'exprimer et bouger, je lui ai dit, mais tu tiendras potentiellement plus dessus, quoi.
Ok, du coup, mais est-ce que par rapport à ça, enfin, est-ce que du coup, parce que il pouvait vraiment pas sauter parce qu'il était vraiment totalement bloqué par la selle, ou c'est que lui ne voulait pas trop non plus?
Ah non, c'est qu'il était coincé. C'est qu'en fait,
Ah ouais?
même au pas, en fait, il n'arrivait pas. C'est vraiment à venir chercher loin dans ses foulées. Il faisait vraiment, enfin, comme moi, je me souviens, ça m'arrivait avant quand t'as les bretelles de ton soutien-gorge qui tombent sur les bras et que tu peux plus bouger les bras. Enfin, t'es coincé. Bah, tu vois, ça fait un peu cette sensation-là de, ben,
Ouais.
t'es retenu en fait dans tes mouvements.
Ok. Ok, et parce que sinon, enfin, normalement, sa vraie capacité en saut est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire.
Ah ben quand elle l'avait acheté, il était vendu pour faire 125-130.
Ah ouais.
Donc tu dis
Oui,
le cheval il a du
effectivement.
mal, le cheval a du mal à sauter 1 mètre, 1,5 m, tu dis bah il y a potentiellement tu vois quelque chose qui ne va pas.
Ouais. Oui, c'est sûr. Et du coup, ma deuxième question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était, enfin, si tu t'en souviens aussi, et tu parlais un peu des conséquences des guêtres sur le cheval, parce que qu'est-ce que ça peut faire?
En fait, c'est la chaleur qui est produite, en fait, parce que le membre, il n'est pas fait pour rester comme ça enfermé. Et en fait, la chaleur qui se peut pas en fait s'évacuer à cause des guêtres ou des bandes, ben ça vient détruire en fait des cellules dans les au niveau, je crois, tendineux, enfin au niveau des membres. Il y a des cellules en fait qui meurent en fait, ben, un peu à cause de la chaleur, quoi.
Ah ouais, donc c'est ça peut quand même être, enfin c'est pas forcément très bon pour le cheval, quoi.
Ben c'est ça, et c'est surtout que autant tu vois. Tu vas les mettre pour aller sur le cross, ok, mais en fait, c'est soit des chevaux qui sont montés tous les jours, en bande ou avec les cotons plus les bandes. Et des fois, enfin, moi, ce qui me fait halluciner, c'est les bandes qui sont montées jusqu'aux genoux, tu vois. Enfin, le cheval, il ne peut pas plier la jambe correctement. Et vraiment, du coup, ça un peu exagère les mouvements un peu relevés. Parce que comme il ne peut pas plier le genou, ben, il est obligé un peu d'aller, de lever la jambe un peu en entier plutôt que, ben, tu sais, il le lèverait juste au niveau du genou. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois. Ouais, donc ça fait un peu comme. Enfin, d'un certain côté, on peut penser que c'est un peu élégant, quoi, entre guillemets, mais c'est. En fait, ça abîme complètement, quoi.
C'est ça.
Ok. Et du coup, je voulais. Enfin, comme je t'avais dit, je voulais un peu revenir aux outils qu'on utilise un peu dans l'équitation classique au quotidien. Par exemple, les fers, les mors, etc., et qui ne font pas forcément de bien aux équidés, est-ce que, y a des moyens de les remplacer qui sont un peu plus doux et voilà, qui sont mieux pour eux? Est-ce que tu as des exemples de moyens qui peuvent les remplacer, quoi?
Concernant les ferrures métalliques, en fait, moi, le problème que j'ai avec la ferrure métallique, c'est qu'en fait, on l'utilise plus par habitude que par nécessité, parce qu'il y a certains chevaux qui ont des pathologies ultra vénères qui peuvent avoir besoin, du coup, de vraiment une ferrure très spécifique. Je pense à des chevaux qui ont des ruptures de ligaments, tout ça. Enfin, j'ai déjà vu des chevaux qui avaient des grosses, grosses pathologies, et moi, personnellement, je n'y toucherai pas en tant que preuse. Et qui peuvent avoir du coup vraiment ce besoin d'être protégés par quelque chose de rigide. Mais à mes yeux, je ne pense pas qu'il y ait d'études dessus, mais à mes yeux, il y a beaucoup plus de chevaux qui sont ferrés par habitude, par tradition, en fer métallique, en fer alu, tout ça, qui sont ferrés par tradition plus que par réelle nécessité. Et si on veut protéger son cheval, les pieds de son cheval, on a la solution des semelles qu'on peut coller, des semelles qu'on peut en plastique, du coup, qu'on peut brocher, donc clouer, si vraiment on a peur que ça ne tienne pas avec la colle. Il y a les baskets, les épossandales. Il y a de manière transitoire, il y a les résines, du coup, les Perfect Hoofwear. Du coup, sont une résine qui entoure le pied et qui peuvent être utilisées. Soit en transition, soit quand le cheval est un peu doudouille. Parce que voilà, je peux comprendre, quand on part par exemple en randonnée pendant une semaine, ben, on n'est pas hyper chaud d'y aller 100% pieds nus. Donc, tu as la solution un petit peu encombrante d'avoir les baskets dans ton sac. Ou alors, ben, tu te dis, ben, juste pour cette semaine-là, mon cheval, je vais lui coller des semelles ou je vais lui brocher des semelles. Pour te dire, bah, au moins je suis tranquille, j'ai pas trop entre guillemets à me prendre la tête, parce qu'il y a aussi ce côté pratique avec le fer de te dire, bah, mon cheval il est utilisable en tout temps, sauf quand il s'arrache le fer et qu'il se défonce le pied. Mais le cheval en fait il est utilisable en tout temps, c'est-à-dire que qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse 50 degrés, le cheval il est utilisable parce que il sent pas. Il est pas, son pied n'est pas au contact du sol, donc quand bien même il serait un peu sensible, ben ça va le gêner dans une moindre mesure qu'un cheval pied nu a vraiment tellement le pied qui évolue en fonction du sol que tu as des chevaux l'hiver ben, qui vont être plus sensibles. Des chevaux l'été, le pied va être tellement dur qu'on pense que s'ils sont très durs, ben c'est bien, mais des fois ils sont trop durs et ils perdent en mobilité, en souplesse, donc ben, ils sont un peu plus douillés aussi. Du coup, pour moi, le pied nu demande plus d'investissement de la part du gardien, parce que moi, c'est un point d'honneur que j'ai avec mes clients, c'est de leur demander, surtout sur des chevaux qui ont des pathologies, qui ont des fourbures ou des gros évasements, de prendre le temps de prendre une râpe. Je leur montre, du coup, pour venir un peu entretenir le pied entre deux passages pour éviter qu'à chaque fois ça parte encore de plus en plus, plus long et que ça soit à chaque fois comme si on revenait une transition pieds nus, tu vois, si ça commence à trop être long. Donc, un cheval qui est ferré, ou tu as juste ton maréchal qui vient toutes les 6 ou 8 semaines, ben, mis à part lui curer les pieds et traiter s'il y a une pourriture de fourchette, t'as pas grand-chose à faire. Qu'un cheval pieds nus, pour moi, ça demande quand même plus d'investissement de la part du gardien. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire.
Ok, par rapport au ferrage, en fait, parce que s'il est pieds nus, du coup, il y a plus d'entretien parce que comme le pied, il s'adapte au temps, c'est ça?
Bah, c'est ça, et puis disons que ben, le moindre déséquilibre, en fait, on le voit plus facilement parce que c'est sur le pied que des fois, il y a certains trucs qu'on ne voit pas trop parce que c'est sur le fer et on y fait moins attention. Et tu as des chevaux, typiquement les chevaux qui ont un hilo, bah, pour moi, ferrer, c'est une grosse bêtise parce qu'on ne peut pas corriger au fur et à mesure. Et l'avantage du pied nu, c'est de dire que ben, un cheval qui a un déséquilibre, moi, je sais que. Il y a certains chevaux, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je remets un petit coup que avec un cheval ferré, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que si tu as un
Ouais.
problème de talon fuyant et de pinces migrées, eh ben, sur ta ferrure, tu dois attendre 6 ou 8 semaines pour revenir dessus et c'est super long. Que si toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu mets un petit coup de râpe pour empêcher du coup, pour reculer les talons et reculer la pince, ben, c'est quand même plus pratique que si tu dois attendre à chaque fois 6 ou 8 semaines. Que ça parte en déséquilibre, que tu le ramènes, enfin, c'est
Ouais.
quand même long. Et puis pour les structures aussi, c'est violent de dire les tendons, les ligaments, tous les muscles et tout qui s'adaptent à ça. Ben, d'un seul coup, hop, tu lui fais le pied beaucoup plus court. Enfin, ça demande de s'adapter. Pour moi, c'est quand même pas, c'est quand même un peu violent.
Oui. Et du coup, bah, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que pour le mort, il y a aussi une autre solution?
Oui, bah y a une autre solution, c'est de pas le mettre,
Ok.
parce que en soi, je pense très sincèrement que tous les chevaux sont montables sans mort. C'est juste qu'on s'est tellement en fait habitué à éduquer des chevaux avec un mort que on se dit que les éduquer sans mort c'est hyper compliqué, alors qu'en fait c'est juste que tu fais exactement la même chose sans mort. Et pour moi en fait, c'est juste qu'on s'est mis en tête que monter sans mort, c'était quelque chose d'exceptionnel et de compliqué et qui demande énormément de compétences, alors que pour moi, ça en demande pas spécialement plus que quand t'as un mort dans la bouche, en fait.
Et donc, à la place du filet avec mort, faut prendre juste une cordelette ou comment ça se passe?
Tu prends ce que tu veux, tu prends un side pull, un licol. Licol encore, j'aime pas trop, mais il y en a qui aiment bien.
Ok.
Tu peux prendre un. Moi, je montais aussi avec un cafesson souple, du coup, avec sans armature métallique. Tu peux monter en cordelette, en fait, tu peux monter avec ce que tu veux. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Tu auras forcément plus de précision avec quelque chose sur la tête que juste une cordelette. Donc, après, il y a quand même un niveau aussi de subtilité. Mais en soi, je pense que si on y met la conviction de l'énergie et l'envie de faire les choses autrement et d'évoluer dans ce sens-là, pour moi, je pense que tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel cheval sans mort. C'est juste que ça peut être plus compliqué pour certains chevaux qui ont été montés très en force, très durs, avec des morts très durs. C'est forcément plus long de revenir dans l'autre sens et que des fois, pas forcément, mais forcément qu'avec un cheval d'1,80 m, 1,90 m qui est pété de force, ça peut faire plus peur et ça peut être plus compliqué qu'avec un cheval qui a toujours été monté en mort simple, avec beaucoup de douceur, avec très peu de mains. Et de manière très subtile.
Ok, du coup on va passer aux questions de fin comme il nous reste très peu de temps là sur Zoom. Qu'est-ce que t'apportent les animaux dans ta vie?
De la
C'est difficile.
sérénité.
Hein.
Non, de la sérénité, parce que c'est un des rares endroits, et encore, j'ai un peu de mal à me poser, comme je te disais, par rapport au TDAH et au TSA, j'ai beaucoup de mal à me poser, à pas réfléchir, mais ça me permet vraiment de. Il m'aide à me poser parce que surtout les chevaux qui ont un rythme qui est très lent, ben ça m'a beaucoup aidé à venir me poser et à apprendre à gérer mes émotions.
Ok, trop bien. Et est-ce que tu as une lecture, un documentaire, une chaîne YouTube, un compte? Bon, là, on a un peu parlé des auteurs, du coup, peut-être que tu as autre chose à conseiller aux personnes qui nous écoutent. En tout cas, une petite
Oui, absolument.
recommandation. Ça peut même être un film, hein, c'est pas forcément quelque chose de réaliste, ça peut être fictif.
Non, c'est le livre des signaux d'apaisement des chevaux. Attends, je me souviens plus du titre, qui a été traduit en français récemment de Rachael ou Rachael Draïsma, Langage corporel et signaux d'apaisement chez les chevaux.
Ok, parfait. Ben, je le
Ça, je
mettrai en
pense que.
description.
Ouais, et aussi, bon, je ne l'ai pas encore acheté, mais The Essential Oof Book, du coup, bon, qui est en anglais, mais où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour comprendre le pied du cheval et le fonctionnement du pied du cheval.
Ok, trop bien. Merci. Du coup, tout ça, pardon, sera en description. Et où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui nous écoutent, tes réseaux sociaux, si tu as un site, etc.
Alors, mon site est en construction depuis 10 ans. Mais sinon, du coup, je suis sur Instagram, TikTok et Facebook. Et ça fait des mois que je me dis que je dois reprendre ma chaîne YouTube, mais que je ne l'ai toujours pas fait. Donc, potentiellement, d'ici 2024,
Ok,
peut-être
bah
qu'il y
là
aura
ça
cette
te
nouvelle chaîne
motive, comme
YouTube.
tu l'as dit, faut que tu le fasses.
Voilà, c'est ça.
Bah, merci beaucoup pour ce podcast, même si encore désolée pour le bug qu'il y a eu hier, mais merci beaucoup pour ton temps et merci pour
Et
toutes
si...
les informations que tu nous as transmises.
Pas de souci, et puis je cale un petit dernier truc dans les 2 minutes qui nous
Oui,
restent.
vas-y, avec plaisir.
C'est une question que je reçois souvent. Si vous voulez venir, que ce soit pour visiter les écuries, pour venir faire du bénévolat sur une journée ou un week-end ou quoi que ce soit, je suis située en Ardèche. Il n'y a aucun problème pour moi. J'accueille des stagiaires, des woofers, des gens qui veulent venir juste pour une journée, pour être avec les chevaux, pour discuter, tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas.
Ok, bah merci. Comme ça, les gens y sauront. Merci beaucoup encore, Laura, pour ce moment.